Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi soir, 13 mai 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères et le président syrien se sont rencontrés mercredi 12 mai à Damas. Les brigades Rassam, branche armée du Hamas, ont repris les attaques aux missiles contre les villes et les colonies sionistes en tirant 15 missiles sur la ville de Dimona, dans le sud de la Palestine, occupée à une dizaine de kilomètres des installations nucléaires de Dimona. Et aux États-Unis, les automobilistes de certains États de la côte Est se ruent sur les stations-service de peur qu'une pénurie de carburant se présente après la cyberattaque d'ampleur contre un réseau d'oléoduc US. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le président syrien Bachar al-Assad se sont rencontrés mercredi 12 mai à Damas, capitale syrienne. Le président syrien a exprimé sa satisfaction du soutien de la République islamique d'Iran à la Syrie dans la lutte contre Daesh ainsi qu'à la situation dans les territoires occupés. Pour sa part, le haut diplomate iranien a exprimé sa satisfaction quant à la préparation du gouvernement syrien à la tenue des élections présidentielles et a exprimé l'espoir de voir les élections se dérouler avec succès. Il a également annoncé le soutien de l'Iran pour les élections en Syrie. Les relations bilatérales, en particulier la coopération dans les domaines économiques et culturels, ainsi que le suivi de l'ouverture des consulats d'Iran dans les villes d'Alep et plus tard à Latakia, figuraient parmi les sujets discutés par les deux parties. L'Iran appliqua de nouveau le protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire si les sanctions imposées par les États-Unis contre le pays sont levées, a indiqué mercredi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. La reprise de la mise en œuvre volontaire du protocole additionnel est conditionnée à la levée des sanctions. Si possible, nous aimerions y parvenir avant le 21 mai, a tweeté M. Araghchi, qui dirige la délégation iranienne dans les négociations nucléaires de Vienne. L'Iran a cessé d'appliquer le protocole additionnel le 23 février, conformément à une loi ratifiée par le Parlement iranien en décembre 2020. Dans son tweet, M. Araghchi affirme que l'Iran est sérieux et déterminé dans les négociations actuelles et prêt à revenir à la mise en œuvre complète de l'accord sur le nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, même demain, une fois que les sanctions seront levées de manière vérifiable. En effet, les exigences excessives avancées par les États-Unis et leur refus de supprimer les sanctions anti-iraniennes sont à l'origine des questions compliquées qui entravent l'avancement des pourparlers en cours à Vienne. Sur une éventuelle reprise de l'accord de 2015 sur le nucléaire et civil iranien,
La chaîne presse TV a obtenu des informations selon lesquelles les États-Unis compliquent les pourparlers de Vienne en insistant sur leur décision de maintenir en place 500 cas de sanctions imposées à la République islamique d'Iran en dépit du contenu du plan global d'action conjoint signé en 2015. Les brigades Rassam, branche armée du Hamas, ont repris leurs attaques aux missiles contre les villes et les colonies de peuplement sioniste en tirant 15 missiles sur la ville de Dimona, dans le sud de la Palestine occupée d'Israël, à une dizaine de kilomètres des installations nucléaires de Dimona, a annoncé la chaîne de télévision palestine Al-Yaoum. Selon le canal 11 de la télévision israélienne, les attaques de la résistance ont repris à 17 heures heure locale. Par ailleurs, les brigades Quds, ailes militaires du djihad islamique de la Palestine, ont annoncé dans un communiqué que leurs combattants ont tiré des dizaines d'obus mortiers sur les positions de l'ennemi israélien au nord de la bande de Gaza. Le mouvement palestinien Nasser Salahedine, branche armée et des comités de la résistance populaire palestinienne, a publié quant à lui un communiqué pour annoncer que ses combattants ont attaqué la base aérienne israélienne de Hadzarim dans le désert du Negev avec un missile Kaash. Par ailleurs, l'armée du régime sioniste a fait état du tir d'un missile anti-char Hornet sur des véhicules militaires israéliens près de Netif à Zahra, dans le sud de la Palestine occupée. Selon les médias israéliens, citant des sources hospitalières, un soldat a été tué lors de cette attaque et plusieurs autres ont été grièvement blessés. Dans un communiqué, la branche militaire du Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attaque par un missile Hornet contre une jeep israélienne près de Netif à Zahra. La résistance irakienne est prête à se lancer dans une lutte d'envergure contre le régime occupant israélien et ceux qui le soutiennent dans la région, car il s'agit d'un principe de la résistance islamique, a déclaré le porte-parole des brigades du Hezbollah irakien. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse iranienne Tasnim, Mohamed Mohi a souligné que la lutte contre l'entité israélienne et la présence des États-Unis dans la région ainsi que contre les partis qui tentent de légitimer et éterniser le régime sioniste avait pris un aspect très sérieux. Le soutien à la nation palestinienne, l'implication dans des mesures destinées à libérer la Palestine et l'anéantissement de la tumeur cancéreuse du sionisme constituent tous les principes de la résistance islamique, a-t-il dit. Le porte-parole des brigades du Hezbollah irakien a réitéré que les efforts de la résistance devraient être mobilisés sur tous les fronts. Cette lutte sera également menée contre les pays et les dirigeants qui s'efforcent de normaliser leurs relations avec le régime sioniste et de soutenir sa guerre. Nous sommes résolus à accomplir cette mission et à faire partie de ce combat d'une manière sérieuse et efficace afin de lutter contre l'existence du sionisme et de ceux qui le soutiennent et qui le légitiment, a-t-il noté. Dans la foulée, Murtada Sadr, chef du mouvement Sadr, a appelé le secrétaire général du djihad islamique de la Palestine, Ziad al-Nakhala, pour faire part de son soutien à la nation et aux combattants palestiniens. En Syrie, 338 terroristes ont été abattus depuis le 23 avril lors des opérations de l'armée syrienne épaulées par l'aviation russe. Un porte-parole des forces russes en Syrie a déclaré mercredi 12 mai à l'agence presse TASS que les soldats de l'armée syrienne soutenus par l'aviation russe avaient abattu 338 terroristes et détruit plus de 80 fiefs et repères depuis le 23 avril afin de prévenir toute attaque contre l'armée et les civils. Des unités de l'armée syrienne, secondées par les forces aérospatiales russes, continuent leur opération de fuite et d'identification dans le désert de la Syrie. Depuis le 23 avril, un total de 338 membres de groupes terroristes ont été abattus. 44 éléments ont été piégés et arrêtés, 20 véhicules ont été saisis et 6 autres détruits. En plus, 38 positions et 45 fiefs ont été également détruits. Le porte-parole russe a précisé que les forces de l'unité de génie de l'armée syrienne avaient sécurisé 2530 km de route et 865 bâtiments en faisant des opérations de déminage effectuées depuis le 23 avril. Auparavant, le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le contre-amiral Alexandre Karpov, avait averti que les groupes armés illégaux opérant en Syrie perpétraient des attentats contre les bureaux publics situés dans les grandes villes syriennes afin de déstabiliser le pays à l'approche des élections présidentielles. Le Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie a réaffirmé que la coalition internationale dirigée par les États-Unis a accéléré le transfert d'équipements militaires vers l'est de l'Euphrate. Notons également qu'un groupe de militaires de l'armée russe ont découvert et détruit un réseau de tunnels appartenant à Daesh dans les déserts de la Syrie. Ce réseau de tunnels a été découvert le mardi 11 mai près de Palmyre, dans la province de Homs. Le commandant de l'unité de génie de l'armée russe en Syrie a déclaré que le réseau de tunnels avait été détruit par 2,5 tonnes d'agents TNT. Ces tunnels ont été exploités par les terroristes Daesh en tant que centre de commandement et s'y trouvaient des armes, du matériel militaire et des systèmes de communication de différentes sortes, ainsi que des documents. L'Afrique du Sud a réitéré mercredi 12 mai son appel à inclure un pays africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vice-ministre des Relations internationales et de la coopération, Alvin Bott, a tenu ses propos lors d'un symposium visant à réfléchir sur le rôle joué par l'Afrique du Sud dans la promotion du multilatéralisme en Afrique et dans le reste du monde. Monsieur Bott a souligné qu'avec un membre non permanent présent pour 2 ans seulement au Conseil de sécurité, il était difficile de maintenir une cohérence. Il a ajouté que l'Afrique du Sud soutenait la coopération Sud-Sud quand elle agit en faveur des plus vulnérables et des plus démunis. L'Union africaine a contribué au consensus d'Ezulwini de 2005 qui appelait à une organisation des Nations Unies plus démocratique et représentative, incluant les Africains. Aux États-Unis, les automobilistes de certains États de la côte Est se ruent sur les stations-service de peur qu'une pénurie de carburant se présente après une cyberattaque d'ampleur contre un réseau d'oléoduc russe, selon France 24. Cette chaîne de télévision française a publié un rapport sur son site web à propos de la panique qui règne devant les pompes à essence. Autour des grandes villes de Caroline du Nord, Atlanta, Raleigh et Charlotte, environ 30% des stations étaient à court d'essence mardi soir, selon le site spécialisé dans le suivi des prix de l'essence, GasBuddy. Dans l'ensemble de l'État, plus de 10% des stations étaient à sec, selon la même source. Certains conducteurs craignent de manquer de carburant après la cyberattaque vendredi sur Colonial Pipeline, qui transporte près de 45% des carburants consommés sur la côte est du pays. L'entreprise s'active depuis à rétablir le service en rouvrant progressivement certaines lignes de distribution. Espère restaurer l'essentiel de ses activités d'ici la fin de la semaine, indique la chaîne d'information française. Les gouverneurs de Géorgie, de Caroline du Nord et de Virginie ont pour leur part déclaré l'état d'urgence afin de faciliter l'approvisionnement en levant, par exemple, les limites de poids pour les camions transportant du carburant. La Maison-Blanche a décrété dimanche l'état d'urgence dans 17 États et dans le district de Columbia. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Iran-Algérie, la coopération militaire. Évidemment que ce contact téléphonique qui vient d'avoir lieu entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, n'est pas sans rapport avec la tonitruante bataille que la résistance livre en ce moment même à l'entité sioniste, sous les yeux ahuris d'un monde occidental et golfien qui, à force de se mentir, croyait Israël imbattable. Boukadoum a écrit sur Twitter que les deux parties iraniennes et algériennes cherchaient des moyens à faire progresser les relations bilatérales. En avril, la Chambre de commerce et d'industrie algérienne, un organisme gouvernemental, a annoncé que sa directrice, Vahiba Bahloul, avait convenu que le conseiller économique de l'ambassade d'Iran en Algérie, Rassem Tarvi, envisage de créer un conseil d'affaires irano-algérien. L'objectif est d'accroître les échanges, d'encourager les investissements et les partenariats dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, les groupes électrogènes, la pharmacie, l'ingénierie et la construction. Tout ceci est bon surtout que, pas plus tard que la semaine dernière, à IPAC, il était question de l'Iran et le ministre des Affaires étrangères de Rabat appelait le monde entier, lisant un texte rédigé visiblement à Tel Aviv, à faire face à l'Iran puisqu'il est déstabilisant et représente une menace au Maghreb. Face aux images des enfants massacrés de Gaza, on ne sait pas ce qu'en pense alors qu'il est M. Bourita. Mais une chose est sûre. Face aux images des enfants massacrés de Gaza, on ne sait pas ce qu'en pense alors qu'il est le ministre marocain. Mais une chose est sûre. Face aux opérations de déstabilisation de l'entité sioniste au Maghreb, lesquelles visent non seulement les frontières terrestres algériennes, à la fois au Maghreb, via Sahara et Sahel, Alger est désormais plus d'une raison d'étendre au domaine militaire ses coopérations politiques et économiques avec l'Iran. Il y a un mois, l'entité sioniste s'est livrée à des assassinats ciblés au Sahara à coups de drone, éliminant l'un des hauts commandants du Front Polisario. À Gaza, Alger ne peut que voir et apprécier la technologie balistique de la résistance, la précision de tir, la portée et la puissance de ses missiles qui s'abattent sans se faire intercepter et en perçant la DCA dite multicouche d'Israël sur des mégapoles comme Gush Dan et Tel Aviv. Cela devra donner bien à réfléchir quand on est un grand pays comme l'Algérie et qu'on a une grande armée comme l'AMP et qu'on est riche et convoité. Trois entreprises sionistes contrôlent depuis bientôt un an le ciel du Sahel. Cette semaine, on a trop parlé d'espèces d'objets lumineux dans le ciel d'Israël, objets qui, suivant les précédents des Américains, pourraient bien être des avions de reconnaissance. Un arsenal asymétrique comme celui de la résistance pourrait largement servir l'Algérie d'ici quelques temps. À Gaza, la résistance palestinienne n'a pas encore dévoilé ses capacités de drone, à l'exception de cette petite sortie du 11 mai où les militaires sionistes ont été pris pour cible par un drone armé. Quant à l'Algérie, pays désormais menacé par des drones israélo-français, il lui faut des contre-drones. Disposant déjà d'une large gamme de drones militaires, Kaman, Karar, Kian, Simorgh, Mohajer, Ababil, Yasser, Sadegh, Hazem, l'Iran a récemment dévoilé le nouveau Kaman 22, flèche en persan, qui présente de nombreuses similarités avec l'américain MQ-1 Predator. Exposé au sol, l'appareil a été présenté avec son armement complet, comprenant des missiles air-sol, des bombes à guidage laser similaires au Pavage, ainsi qu'un pot de brouillage électronique identique à celui connu comme ANALQ-101 ou 119. C'est propre au combat anti-drone, anti-DCA. Le Kaman 22 dispose d'une endurance de plus de 24 heures et d'une portée de 3000 km, à comparer avec 1800 km du MQ-9 Reaper américain. Quand on sait que les MQ-US se promènent souvent dans le ciel du Maghreb, il faut s'en prémunir. En termes de taille, le Kaman 22 pèse 530 kg et il a une longueur et une envergure similaires à celle de MQ-1 Predator. De plus, le Kaman 22 posséderait une charge utile de 390 kg. Avec tout ceci, les assassinats ciblés à l'israélienne au Sahara ne seraient plus une promenade de santé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Le régime israélien se trouve dans un état de panique. La résistance palestinienne composée du Hamas et du djihad islamique et d'autres groupes palestiniens a lancé en fait une grande salve de missiles sur Israël. Et ce en guise de représailles à cette oppression dont fait l'objet. Le peuple palestinien à Al-Rot occupé également en guise de représailles aux agressions continues du régime israélien contre le peuple palestinien. Le régime israélien s'est livré de son côté à d'intenses bombardements de la bande de Gaza. Au moins, le bilan risque de s'alourdir. 43 Palestiniens ont été tués, dont en fait 13 enfants. Et du côté de l'axe de la résistance, la solidarité avec le peuple palestinien est entière. En Iran, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a réagi à ce qui se passe actuellement à Al-Quds occupé. En fait, l'atrocité et la criminalité innée des sionistes s'expose sous les yeux du monde entier. Il est du devoir de chacun de condamner ces atrocités que commet sans embâge le régime des sionistes, a souligné le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui a en fait poursuivi. Heureusement, les Palestiniens sont vigilants et déterminants. On ne peut parler à ces criminels qu'avec le langage de la force. Ils doivent se renforcer, se lever, se battre et forcer l'ennemi à cesser de commettre des crimes et à se rendre à la justice, car l'entité sioniste ne comprend que le langage de la force. En Irak, le grand Ayatollah de Sistani a réagi également à ces événements. L'Ayatollah Sistani qui a apporté son plein soutien au peuple palestinien. En Irak, le secrétaire général de la résistance islamique d'Al-Nujabar, Sheikh Akram al-Kabi, a en fait fait part de sa pleine solidarité et celle de la résistance irakienne avec le peuple palestinien. Au Yémen, le leader du mouvement yéménite Ansar Allah, Abdul Malik al-Houssi, aussi a apporté son plein soutien au peuple palestinien. Et au Liban, en fait, un haut responsable du Hezbollah libanais, Mustafa Badreddin, qui est le président du conseil exécutif du Hezbollah libanais, a déclaré que l'esprit de résistance existe aujourd'hui à Quds, en Cisjordanie et dans toute la Palestine, et que c'était la résistance qui dessinait désormais l'équation de la victoire. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de votre invitation et bonjour à Madame Midani. Et
vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir et merci et bonjour à Monsieur Develet.
Merci beaucoup Madame Midani. Madame Midani, je viens de lancer le sujet, votre haute en fait évaluation s'il vous plaît.
Bah, écoutez, je pense que la fin de l'État d'Israël a commencé en fait puisque ce régime sauvage et criminel qui n'hésite pas à tirer sur des gens qui font la prière dans la mosquée Al-Aqsa de Quds, qui n'arrête pas d'agresser les gens qui font la prière, y compris au sein de la mosquée. Ils ont envoyé des balles de sonde sonore lacrymogène et ils ont handicapé un nombre important de personnes aussi, parce qu'ils visent à tirer dans les yeux et sur les membres, sur la tête en fait. Hein. C'est aussi des missiles qui ont été tirés sur Gaza, sur tous les quartiers civils d'habitation. En fait, ils prétendent avoir une banque de données militaires, etc., mais ils tirent sur les civils. C'est vraiment la réponse des lâches, je dirais. Des enfants ont été tués, bon, 48 martyrs, effectivement, mais aussi beaucoup de blessés. Et donc, dans les 48 martyrs, il y avait 14 enfants. Ils n'arrêtent pas de... Ils ont détruit des immeubles entiers sur la tête de leurs habitants à Gaza, à l'ouest de Gaza. Donc aussi un immeuble qui abrite beaucoup de bureaux d'information, en fait des agences de l'information arabes, étrangères, etc. Et donc c'est vraiment un ennemi qui est non seulement des plus sauvages, mais aussi qui ne s'encombre d'aucune légalité, d'aucune loi du respect. Ni des lois internationales, ni des droits de l'homme, ni rien du tout. D'un autre côté, il est important de voir aussi qu'il est dans une agression systématique contre les Palestiniens. En même temps, pendant cette agression contre les gens qui font la prière à Gaza en plein Ramadan, il agressait aussi des habitants pour les faire, les habitants de plusieurs quartiers autour de Jérusalem ou de Jérusalem aussi, Haïchaïm notamment. Et donc pour expulser les habitants, s'approprier leurs maisons, les donner à des colons en ce mois sacré du Ramadan. Et puis, non seulement aucun respect, mais c'est vrai que c'est un régime criminel en toute description, je dirais, en toute forme. Dernier point, je voudrais ajouter que de toute façon, la résistance palestinienne, Gaza a volé au secours de d'Al-Quds. Et ce qui est très, très louable, et puis de toutes les parties de la Palestine, il y a eu aussi un soutien magnifique. De l'autre côté, je voudrais dire, au niveau des peuples arabes, partout, il y a eu des marches de soutien, des manifestations de soutien, y compris d'ailleurs en Europe et aux États-Unis. Là, je viens d'entendre à Los Angeles, il y a eu une grande marche des Arabes, en fait, pour soutenir les Palestiniens, ce qui est quelque chose de très important aussi, donc les expatriés, la diaspora. Mais aussi, en fait, je voudrais quand même faire remarquer qu'au Maroc, il y a eu une manifestation de soutien au peuple palestinien, malgré la répression du régime du roi qui a
pactisé. Merci beaucoup.
Et voilà.
Merci beaucoup, Madame Midani. Il y a eu également des manifestations dans des villes israéliennes, des manifestations en fait de la part en fait de vrais propriétaires de la Palestine. On va y revenir en fait plus tard dans notre émission. Maître de Volley, vous êtes à Damas. Permettez-moi de faire cette précision que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, également se trouve actuellement à Damas, capitale de Syrie. Mohammad Javad Zarif, qui est en fait parti pour la Syrie dans le contexte actuel, il serait question de renforcer et de coordonner davantage ce QG commun de l'axe de la résistance Syrie, Irak, de Liban et l'Iran et Yémen. Cette visite est d'une importance primordiale également, qui s'effectue dans le contexte actuel. Maître de Volley, vous êtes à Damas. En fait, du côté israélien également, ils se sont rendus en fait compte de l'ampleur de la riposte de la résistance palestinienne, à tel point que Maître de Volley, la chaîne 20 de la télévision israélienne, disait en fait Israël est la cible des violentes attaques aux missiles de toute son histoire.
Oui, c'est intéressant et vous faites bien de le souligner. C'est effectivement une rencontre au sommet est en train de se dérouler ou va se dérouler à Damas, réunissant la résistance libanaise, la résistance iranienne, la résistance syrienne et la résistance palestinienne. À cet égard, je rappellerai à nos auditeurs que cette coordination, ou ce qu'on appelle ce BOA, hein, cette intégration des commandements, n'est que l'expression concrète de ce qui avait déjà été évoqué à plusieurs reprises par le secrétaire général du Hezbollah, il y a déjà plusieurs mois de cela, où il avait esquissé la nouvelle doctrine militaire de la résistance à l'échelle régionale, qui portait sur le fait que si l'identité sioniste venait à s'attaquer ou engager des hostilités envers ne serait-ce qu'une des branches de la résistance, toutes les autres branches de la résistance viendraient et coordonneraient leur réponse. C'est visiblement ce qui est en train de se passer, je n'en dirai pas plus. Vous pouvez être certain qu'il y a eu des mouvements aériens de l'aviation sioniste au large des côtes syriennes. Il laisse entendre que, voilà, je pense qu'ils essaient de voir si il y a possibilité de identifier ce qui se passe ici et d'agir en fonction d'eux. Mais ce qui se passe est beaucoup plus large que cela, parce que à l'heure où nous parlons, et la symbolique est extrêmement forte, un village sous le joug de l'occupation a été libéré par ses occupants pour la première fois depuis donc la Nakba, la catastrophe de 48, et donc l'occupant a été forcé d'évacuer le village en question. Et l'armée sioniste est en panique totale. Ils ont perdu le narratif, le contrôle du narratif. Madame Daniel le soulignait, il s'efforce de bombarder les centres de communication et de médias au sein de la bande de Gaza, mais à l'ère des réseaux sociaux, l'information circule tellement rapidement comme une traînée de poudre. Je dois dire que maintenant, voilà, c'est trop tard. Et tout cela, c'est quelque part. Alors, est-ce que c'est le résultat du vide politique créé par l'incapacité de Netanyahou de remonter une coalition, ou est-ce que c'est dû à l'arrogance idéologique de certains segments extrêmement virulents? Je nommerai à cet égard la mouvance kahaniste. Qui est en fait à l'origine de cette séquence, puisqu'on a pu voir qu'ils avaient eux-mêmes initié ces procédures d'intimidation et d'expulsion forcée qui ont en fait mené à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avec en point d'orgue, et ça je crois que ça a été une catastrophe aussi pour l'État sioniste, ces images qui circulaient où en toile de fond on pouvait voir la mosquée Al-Aqsa, ou en tout cas l'esplanade des mosquées en proie aux flammes, avec les occupants sionistes en train de danser, se réjouir de cela, ce qui montre vraiment au monde entier cette espèce de la nature profonde de ce régime, qui, comme Human Rights Watch l'a souligné il y a à peine quelques semaines de cela, est rempli tout à fait maintenant les... Il y avait encore des doutes sur le sujet, la terminologie de l'apartheid au sens légal du terme. Les sionistes sont complètement dans un état de panique totale, à telle enseigne que l'administration Biden a essayé de, bon, pour des raisons cosmétiques, d'appeler soi-disant au calme ou de contacter leurs homologues sur place, leur allié régional, et ils se sont fait rabrouer. C'est pour vous dire à quel point le lobby sioniste a pris un sens, une espèce d'arrogance même par rapport à son
seul allié
aux Nations Unies. Donc la situation est évolutive, mais il est certain que nous assistons à une nouvelle ère en ce moment, et il est trop tôt encore pour dire où cela va aller, mais il faut observer la situation avec attention, parce que voilà, la dynamique a complètement évolué.
Merci beaucoup, Madame Midani. Des cibles vitales ont été en fait visées à l'intérieur d'Israël, par exemple à Ashkelon, le pipeline, si vous voulez, Ashkelon-Ilat a été en fait visé. La ville de Tel Aviv a fait l'objet en fait de plusieurs dizaines de missiles. Le régime se trouve dans un état de panique, et à cela s'ajoutent également ces soulèvements, si vous voulez, des Palestiniens. On les appelle en fait des Arabes israéliens, mais ils sont des Palestiniens, de vrais Palestiniens d'ailleurs, dans certaines villes, si vous voulez, israéliennes, à tel point que l'état d'urgence a été décrété, pour faire une précision, Madame Midani, dans certaines villes israéliennes. Et en fait, cela montre que même le régime israélien n'attendait pas, si vous voulez, voir une telle réaction, une telle capacité, une telle puissance de la part de la résistance palestinienne, Madame Midani.
Oh, tout à fait, parce que la résistance palestinienne a réussi à viser aussi l'aéroport à l'Ud de Ben-Gurion. Il y a eu un grand réservoir de produits pétroliers qui a explosé. Il y a eu pas mal de choses, en fait, qui ont été détériorées du fait des missiles. Et puis, je voudrais quand même dire que c'est quand même des lancers de 100 un peu plus de 100 missiles qui ont été lancés sur à la fois Ashkelon, Ashdod, et puis après à Tel Aviv, sur Tel Aviv ce matin. Donc, effectivement, c'est tout à fait une autre ampleur, je dirais, que la résistance palestinienne entreprend aujourd'hui dans sa résistance. Ça, c'est un premier point qui est très important. Un autre point, c'est que aussi, pas seulement Hamas, ce sont aussi l'ensemble des organisations palestiniennes qui se sont mis d'accord sur cette riposte, parce que en fait, Hamas avait dit effectivement, s'il est appelé à réagir, il réagira, mais s'il est appelé par l'ensemble des organisations palestiniennes. Et donc, apparemment, il y a eu unité sur ce point, ce qui est très important, parce que pour moi, c'est, à mon point de vue, c'est quand même un saut qualitatif, si vous voulez, dans l'unité palestinienne qui a été provoquée par les gens qui résistent à Al-Quds et après à Gaza avec leur chair, en fait, face à la sauvagerie israélienne, ce qui a fait que effectivement toutes les organisations se sont unies dans cette riposte, chacun à son niveau, et ça, c'est très appréciable. C'est ça aussi qui a fait que le soutien et je dirais même le mouvement s'organise dans l'ensemble des parties de la Palestine et aussi par l'ensemble des Palestiniens, parce que il faut savoir quand même qu'il y a eu toujours une volonté de bien diviser les Palestiniens en disant les Palestiniens de 48, les Palestiniens de 67, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de la Cisjordanie, etc. Il y a eu toujours cette volonté de les séparer et de les...
Merci.
Pas seulement de les séparer, mais de les de créer des spécificités à chaque groupe. Et maintenant, bon, tout le monde est uni dans cette lutte pour défendre Al-Aqsa, ce qui est excellent et ce qui représente effectivement un saut qualitatif nouveau très important qui présage de nouvelles conséquences différentes quand même.
Maître Develay, Madame Midani, en fait, vient de le dire, en fait, le mouvement s'organise du côté palestinien, de l'ensemble de la part des Palestiniens, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, des territoires occupés de 1948, et le mouvement s'organise, venez, Maître Develay, faire allusion à cette réunion au sommet à Damas, dans le cadre de la visite du chef de la diplomatie iranienne dans cette ville. Madame, maître de Volée, le mouvement s'organise également du côté de l'ensemble de l'axe de la résistance, si nécessaire, l'ensemble de l'axe de la résistance ira s'activer d'après vous?
Oui, absolument. C'est quelque chose de sans précédent. Je pense que les sionistes ont sous-estimé cette capacité pour l'acte de la résistance à rassembler toutes ses composantes. Et Abdelmalek Al-Houthi a lui-même proclamé qu'il se tenait prêt en fonction des décisions tactiques et stratégiques qui pourraient être prises à cet égard, à prêter main forte à ses frères palestiniens. Donc c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu depuis des décennies. Et à cet égard, je pense que nous ne sommes qu'au départ d'une séquence qui risque de complètement changer la situation sur le terrain, alors même que je pense que les sionistes pensaient qu'ils pourraient, à la face du monde, profiter de leur soutien en Occident, médiatique et politique, pour pouvoir continuer à judaïser à Fraud et avancer leur projet, parce qu'eux aussi, ils suivent leur projet. N'oublions pas que la raison d'être de l'Europe des sionistes dans son existence, c'est de continuer à les expulsions, le nettoyage ethnique et à terme d'expulser les Palestiniens dans ce qui concerne la Jordanie. Avec peut-être en toile de fond aussi donc retirer la responsabilité des lieux saints à l'Aqsa ou à la Jordanie pour les donner peut-être à son allié saoudien. Et ça, ce serait le prélude ensuite à l'érection du troisième temple, puisque l'idée serait essentiellement après de raser Al-Aqsa et d'ériger cette construction théologique. C'est l'objectif du sionisme. Le sionisme, en fait, est le masque d'un certain judaïsme politique dévoyé. Et le projet colonial n'est que le pendant de cet objectif. Donc, en voulant aller, si je peux dire, trop vite et en avançant avec une assurance démesurée et sans connexion aucune avec la réalité, ils ont peut-être commis l'erreur que tout le monde savait qu'à un moment ou à un autre, ils finiraient par connaître.
Maître Arnaud de Volée, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Une nouvelle attaque takfiriste fait une trentaine de morts dans l'est du Burkina Faso. Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, tout comme ses voisins le Mali et le Niger, est en proie depuis 2015 à des attaques takfiristes récurrentes. C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises par les takfiristes dans ce pays depuis 2015, une semaine après l'exécution de 3 Européens dans la même région. Au moins une trentaine de civils ont été tués lundi 3 mai dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso. Un important nombre d'individus armés ont attaqué le village de Kodiel dans la commune de Futuri, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles, d'après une source sécuritaire régionale. Un responsable régional des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des supplétifs civils engagés dans la lutte contre les takfiristes, aux côtés des forces de défense et de sécurité, a confirmé l'attaque, parlant d'un bilan très lourd de maximum 20 à 3 morts. Le responsable régional des VDP a déclaré à l'agence France-Presse que l'attaque avait eu lieu tôt le matin, pendant que certains étaient toujours dans leur maison. Des dizaines d'hommes ont fait irruption dans le village et mis le feu à des maisons pendant que d'autres surveillaient. Ils ont ouvert le feu sur des gens sans distinction. Les terroristes ont également blessé une quinzaine de personnes, dont certains ont été évacués vers le centre hospitalier de Fada Ngourma pour des soins, a-t-il ajouté. Cette attaque est l'une des plus meurtrières depuis que le Burkina Faso est confronté aux actions takfiristes qui ont débuté dans ce pays il y a 6 ans. Le 1er janvier 2019, des individus armés non identifiés avaient attaqué le village de Yirgou dans le nord du Burkina Faso, tuant 6 personnes, dont le chef du village, attaque immédiatement suivie d'actions de représailles entre communautés causant la mort de 50 personnes, selon le bilan officiel, plus de 70 selon des organisations de la société civile. En novembre 2019, une embuscade ayant visé un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays avait fait 37 morts et 60 blessés. L'attaque de lundi survient une semaine après une embuscade contre une unité mixte anti-braconnage dans cette même région sur l'axe Fada Ngourma et Pama, à la suite de laquelle 2 journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune sauvage, d'abord portés disparus, avaient été exécutés par les terroristes selon les autorités du Burkina Faso. Pays pauvre de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques takfiristes récurrentes, tout comme ses voisins le Mali et le Niger, menés par des groupes affiliés à l'organisation Daesh ou à Al-Qaïda. En Algérie, un terroriste takfiriste a été abattu jeudi matin à Médéa par un détachement de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale qui précise que cette opération est toujours en cours. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu un terroriste le 6 mai 2021 lors d'une opération de fouille et de ratissage à Jabal Echaoun, commune de Derag, wilaya de Médéa. Cette opération, toujours en cours, a permis de récupérer un pistolet mitrailleur, 3 chargeurs garnis de munitions et une paire de jumelles, ajoute la même source. Cette opération, qui s'inscrit dans la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'armée, réitère leur détermination à persévérer dans la lutte contre le terrorisme, à traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l'ensemble du territoire national, souligne le communiqué. Depuis le 1er janvier, 9 terroristes takfiristes armés ont été tués dans des accrochages avec des soldats et 1 a été capturé, selon le ministère de la Défense. 3 soldats ont trouvé la mort. Malgré la mise en œuvre en 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile, des groupes armés salafistes restent actifs, notamment dans l'est de l'Algérie, où il cible généralement les forces de sécurité. Un terroriste takfiriste algérien qui avait rejoint des groupes terroristes au Sahel a été arrêté samedi par l'armée à l'autre extrémité du pays, près de la frontière avec le Mali. Depuis le début de l'année, 5 terroristes takfiristes se sont livrés aux autorités algériennes dans la région qui se trouve près de la frontière de l'Algérie avec le Mali. Et enfin, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie rapporte ce samedi que des terroristes ont attaqué les positions de l'armée syrienne dans le gouvernorat d'Idlib. Au moins 10 terroristes takfiristes ont été neutralisés. Une vingtaine de terroristes ont attaqué les positions de l'armée de la République arabe syrienne dans la localité de Melaja, dans le gouvernorat d'Idlib, annonce le contre-amiral Alexandre Karpov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Au moins 10 d'entre eux ont été éliminés. Une division d'une vingtaine de radicaux d'origine étrangère du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham a attaqué les positions des forces gouvernementales dans la zone de la localité de Melaja, dans le gouvernorat d'Idlib, déclare-t-il lors d'un point de presse. Selon le contre-amiral, l'armée syrienne a repoussé cette attaque en éliminant pas moins de 10 terroristes. Les autres se sont retirés en prenant la direction de la localité de Ftir. Cela fait déjà plus de 10 ans que le conflit armé dure en Syrie. Les troupes gouvernementales affrontent des groupes armés appartenant à diverses formations. En 2015, le président syrien Bachar el-Assad a demandé l'aide de la Russie, militairement présente dans le pays depuis. L'aviation russe porte notamment des frappes de précision sur les positions des takfiristes.
Thank you.
à qui Téhéran